1997 et elles s'enrichissent chaque semaine de milliers de nouveautés et proposent aujourd'hui un accès à presque 6 millions de documents. Donc parmi ces documents, vous allez trouver des livres, naturellement, mais aussi tout autre type de support qu'on va voir s'afficher dans quelques temps. Donc ce sont des cartes, des objets, des bandes sonores, des journaux, des revues, des images. Donc voilà. Alors pour vous familiariser avec la richesse des collections de Gallica, vous pouvez commencer par parcourir la sélection. Donc en fait, ces sélections, ce sont des documents qui ont été choisis et organisés par les bibliothèques responsables des différentes disciplines, par thématique. Donc vous voyez ici, on a la nature en images, ça tombe bien. Donc on va voir ce qui se cache derrière, la nature en images. Voilà, donc avec des sous-thèmes, et on peut aller regarder par exemple les plus beaux ouvrages illustrés, les plus beaux ouvrages botaniques illustrés qui ont été choisis par les collègues. On peut aller sur l'onglet fleurs et vous allez arriver sur une page qui va vous proposer les ouvrages les plus remarquables ou les plus intéressants sur le sujet des fleurs. Alors vous pouvez également accéder aux sélections par les onglets qui se trouvent en haut de l'écran, toutes nos sélections. Là vous avez des mots-clés qui vous permettent de faire des recherches sur diverses thématiques. On va choisir la thématique du jardin pour rester dans le thème. Donc sous cette thématique jardin, vous allez avoir des sous-thèmes. Et on va prendre l'horticulture pour parler de fleurs, une fois de plus. C'est un peu long, oui. Voilà, là, en recliquant sur la vignette fleurs, vous allez avoir plusieurs fleurs proposées. On va essayer d'en trouver une vivace, tant qu'à faire. Hein. Les tulipes, par exemple. Voilà, et donc là, vous avez une vingtaine de documents sur le sujet. Alors, autre moyen de parcourir ou de découvrir les collections Gallica, ça va être de lire les billets du blog Gallica, parce qu'en fait, il y a un blog Gallica et sur lequel des bibliothécaires rédigent des billets sur des sujets souvent plus précis que les sélections qui sont quand même très, très thématiques. Le blog Gallica sert également à annoncer les rencontres Gallica, comme celle d'aujourd'hui. Voilà, donc là, c'est une présentation vraiment très, très générale de Gallica, et donc on va commencer à l'explorer un peu plus profondément en faisant une recherche sur les plantes vivaces pour voir si nous avons des documents dans Gallica sur ce sujet. Voilà, donc là, Luc a fait une recherche simple plantes vivaces. Donc juste avant de parler de la petite fenêtre qui vient de s'ouvrir, regardez le nombre de résultats qui s'affichent en faisant la recherche plantes vivaces. Vous avez 32 138 résultats, donc ce qui n'est pas forcément pertinent. Je reviens sur cette nouvelle fenêtre qui s'est ouverte, là, Gallica vous conseille. Donc c'est à nouveau une sélection de documents sur le thème, en fait, sur un thème en lien avec la recherche que vous venez de faire. Donc là, on est dans le thème botanique. Et donc vous allez avoir sur le bandeau du haut des ouvrages de référence sur le sujet. Le bandeau du bas vous présente les sélections dont je viens de vous parler, les liens vers les billets de blog. Et là, on en a un sur la famille Villemorin. Donc on peut éventuellement ouvrir, non, je ne sais pas si c'est utile, mais enfin bon, c'est pas grave. Et les liens, en fait, les dernières vignettes vous présentent en fait les bibliothèques partenaires de la Bibliothèque nationale, hein, puisqu'en fait, on a des accords avec des bibliothèques pour mettre à disposition sur notre site leurs ouvrages numérisés. Donc, pour en revenir à nos résultats de recherche, donc 32 000 résultats, c'est pas forcément très très pertinent, donc on va faire la même recherche en mettant des guillemets. En fait, on avait autant de résultats parce que la recherche se fait à la fois sur le mot plante, sur le mot vivace, même s'ils ne sont pas contigus dans les résultats. Mettre des guillemets, c'est un moyen, je pense que vous connaissez tous, hein, pour restreindre les recherches, parce que là, on fait une recherche sur l'expression exacte plante vivace. Et vous voyez bien dans les mots qui sont surlignés que la recherche se fait vraiment sur cette expression-là. Et là, on n'a plus que 2000, pratiquement 3000 résultats, donc on a quand même divisé par... par 10 le nombre de résultats. Donc, ce qui prouvait bien que c'était pertinent de la faire comme ça.
Voilà, donc pour rester dans le sujet d'aujourd'hui, on a voulu, en faisant notre préparation, voir ceux, vous m'entendez, c'est bon,
oui,
ceux qu'il y avait sur les plans de vivace, donc au point de vue de la langue. Donc en faisant la recherche, comme vous voyez, au singulier, on tombe sur un certain nombre d'occurrences et ce qui nous intéressait, c'est de savoir un peu d'où ça vient. Donc en triant par date, puisqu'on peut le trier par date croissante, on observe que une des premières occurrences est en 1702. Il s'agit du dictionnaire de Furetière, qui était un des derniers dictionnaires de la langue française au XVIIe siècle, avec le dictionnaire de l'Académie. Donc, dès 1702, c'est la deuxième édition du dictionnaire. On va voir, vous voyez, on peut aller dans le document. Donc là, on affiche la page de titre, et sur la petite loupe, on peut faire une recherche par mot, puisqu'il y a un certain nombre d'ouvrages où on peut faire une recherche dans le texte. Donc on voit que ça nous pointe sur une page, il suffit de cliquer dessus, et on tombe sur la référence.
Voilà, donc cette référence nous donne en 1702 la définition suivante de la plante vivace. C'est une plante dont la racine ne périt pas après qu'elle a donné sa semence. On en trouve plusieurs parmi celles-ci qui sont toujours vertes, comme le cabaret, le violier, etc. Et d'autres qui perdent leurs feuilles pendant une partie de l'année, comme le padane, le pied de veau, la fougère, etc. Donc maintenant que nous savons tous ce qu'est une plante vivace, bah partons à leur découverte dans les collections de Gallica.
Donc Gallica, on vous a dit, c'est toute une diversité de documents et aussi d'époques variées. Alors là, on va vous faire un petit parcours à travers nos collections sur une trame qui sera grossièrement chronologique. Donc les documents les plus anciens qu'on ait, ça va être tout ce qui est manuscrit, donc on s'appelle le département des manuscrits, et donc des manuscrits médiévaux, entre autres, puisque au Moyen-Âge, on avait un type de document qui s'appelait les herbiers manuscrits. Alors quand je dis herbiers, ce n'est pas les herbes que vous ramassez, que vous mettez entre deux feuilles. Hein. Donc ce sont des descriptions de plantes avec, pas toujours, mais donc des illustrations. Ici, donc, vous voyez, on a numérisé l'ouvrage, donc vous voyez la photographie du document. Cet herbier, donc il y a plusieurs auteurs qui sont très représentés à l'époque, Dioscoride, ici le pseudo appelé, et c'est un ouvrage du 9e siècle, 9e-10e siècle, et qui est en latin. Et donc, en haut, le texte, la description, et en dessous, la représentation de la plante. Alors, on est un peu vache, c'est-à-dire qu'on a fait exprès de prendre une plante qui ressemble pas, enfin une image qui ne ressemble pas beaucoup à la vraie plante, mais en fait vous aurez la solution à la fin de notre intervention. Donc au niveau des manuscrits, on a même au XVIe siècle un manuscrit très célèbre qui sont les grandes sœurs d'Anne de Bretagne. Alors pour faire la recherche, donc au début on a fait une recherche simple comme vous avez vu, et là les recherches que nous allons faire ensuite va être surtout donc des recherches avancées. Donc comme n'importe quel site de moteur de recherche, il y a une fonction avancée. Donc en cherchant, on peut en fait limiter à un critère ou les croiser. Donc là, les grandes sœurs d'Anne de Bretagne, vous voyez les résultats, on peut afficher dans les informations détaillées tout ce qui est ce qu'on appelle la notice, donc tout le descriptif de l'ouvrage. Ça vous fait tout l'historique, ça vous dit que ça a appartenu aux collections royales, à la bibliothèque royale, etc. Et donc après, on va aller sur le document. Alors, par défaut, donc vous voyez, là, on tombe sur la reliure, la première page. Alors, on peut le faire défiler, vous voyez, une belle couverture. On peut le faire défiler, là ce sont les armes d'Anne de Bretagne qui descendent, donc les armes, voilà, puisque duchesse de Bretagne et reine de France. Il y a plusieurs modes d'affichage ici, en simple page, on peut vous le faire aussi en double page, c'est comme si vous feuilletiez en fait l'ouvrage, donc voilà. Ici à droite, la représentation d'Anne de Bretagne, je ne sais pas si vous la reconnaissez. Ensuite, autre mode, pour balayer plus rapidement un ouvrage, le mode mosaïque. qui va vous permettre un peu d'avoir un aperçu du document, puisque en fait c'est un livre d'heures, donc un livre de prière, mais agrémenté pour chaque page d'une représentation botanique d'une plante différente. Donc ça fait quand même plusieurs centaines de plantes différentes, qui sont plantes à la fois rendues très, très réalistes, contrairement aux précédents qu'on montrait, et qui sont accompagnées de leurs noms français et latins. Ici, donc, il s'agit enfin, toute la bordure est décorée. Vous avez reconnu la prune, qui est un fruit de saison, avec aussi des petits détails réalistes comme ces petits papillons, coccinelles, et en bas, réaliste, mais bon, peut-être un peu moins, donc deux singes qui sont de la taille d'une prune. Après, donc, à partir de la moitié du XVe siècle, on arrive à l'époque de l'imprimerie. Donc, dans la deuxième moitié du XVe siècle, les débuts de l'imprimerie vont ressembler, en fait, les ouvrages parus vont ressembler beaucoup aux ouvrages qu'on connaissait précédemment à l'époque du manuscrit. Donc, vous voyez ici l'Orto Sanitatis, le jardin de santé, qui, au niveau de sa mise en page, au niveau de sa typographie, au niveau des planches, enfin, ça ressemble, et même au niveau du contenu, ressemble très fortement à un manuscrit. Ici, une plante vivace que vous avez peut-être reconnue, il s'agit de la mandragore, pour vous montrer que c'était la façon dont on la représentait au Moyen-Âge, que malgré l'arrivée de l'imprimerie, on reste quand même dans une tradition antérieure. Donc pour voir des progrès au niveau de la botanique, il va falloir attendre un petit peu. En fait, il va falloir attendre déjà qu'on redécouvre les textes antiques, mais aussi qu'on découvre plutôt le Nouveau Monde et puis le reste du monde. Donc à partir de Christophe Colomb et autres, donc des grandes découvertes, on va découvrir des continents, puis on va découvrir aussi toutes leurs plantes. C'est-à-dire que jusqu'à la Renaissance, on connaissait quelques centaines de plantes en gros, puisque les ouvrages, les herbiers qu'on avait vus, on comprenait à peu près ce nombre-là, qui était classé dans l'ordre alphabétique, donc c'était le savoir était assez limité. Mais avec les grandes découvertes, là, ça va exploser. C'est-à-dire qu'en Amérique, par exemple, qui est le continent le plus riche au niveau botanique, on va ramener des quantités d'espèces. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Que vont faire les botanistes? Ça va être il va falloir les décrire, les nommer, les classer. Voilà un exemple ici de nouvelles plantes qui est ramenée d'Amérique. Donc vous avez reconnu le piment. L'ouvrage est imprimé en noir et blanc, puis après il est mis en couleur. Alors l'auteur aussi est intéressant, puisqu'il s'agit de Leonard Fuchs, on commence à s'intéresser aussi aux plantes, à leur représentation, puisque là on utilise des spécimens botaniques. Alors pour la petite histoire, Fuchs a donné son nom Fuchsia. Dès le XVIe siècle, on a différentes techniques pour représenter les plantes. Ici, c'est une technique qui est à la portée de tous, vous pouvez y essayer aussi. C'est ce qu'on appelle l'impression naturelle. Alors, pour une impression naturelle, il suffit de prendre une plante, n'importe laquelle, un spécimen, donc l'ancrer, mettre de l'encre avec un tampon, et ensuite reporter tout ça sur une feuille blanche, donc ce qui va vous faire une empreinte. Ici, un des exemplaires les plus anciens qu'on connaisse, puisqu'il remonte au début du XVIe siècle. Il a appartenu à différents propriétaires, y compris Catherine de Médicis. Là, vous voyez une plante que vous avez peut-être reconnue, puisqu'il s'agit du ricin. Alors, si vous n'aviez pas reconnu, en fait, on peut zoomer. Vous voyez à gauche la petite loupe, qui va vous permettre d'agrandir à la fois l'image et puis la légende. Donc en bas à gauche, on voit donc Ricinus, ricin ou palme de Christ. C'est pas imprimé en couleur, c'est-à-dire que ça fait une empreinte en noir et blanc, puis après ils ont mis de la couleur. Donc au XVIe siècle, on a vu de nouvelles plantes. Là, c'était pour l'intérêt botanique ou pratique. À partir du XVIIe siècle, on va s'intéresser aux plantes dans des buts plus horticoles, plus ornementales. Donc il va apparaître un nouveau type d'ouvrage, ce qu'on appelle les fleuriages. Donc, comme leur nom l'indique, ça va être un rassemblement de fleurs, enfin pas seulement. Un Spertz, donc dans son fleuriège, va nous montrer des espèces qui sont, qui sont recherchés, puisque en plus de faire paraître cet ouvrage, il avait, enfin son métier, était d'en produire. Il avait une pépinière et il voulait vendre ses plantes à la foire de Francfort. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il imprime un ouvrage qui va lui servir de catalogue. Donc on a ici, début XVIIe siècle, un des premiers catalogues horticoles. Là, ce qu'on va vous montrer, c'est donc pour cet ouvrage-là, on en possède deux exemplaires. C'est pour montrer qu'il peut y avoir des particularités d'exemplaires. Cette plante, il s'agit de la jacinthe, de la jacinthe, pardon. L'intérêt, c'est qu'on va avoir deux exemplaires, un en l'état originel, et puis l'autre qui a été mis partiellement en couleur, puisqu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas tellement de procédés de reproduction en couleur. Donc, quand on voulait illustrer un livre, c'était comme les coloriages actuels, et il fallait prendre ses pinceaux. Donc, vous allez voir quand ça sera chargé. Voilà. Donc, au XVIIe, on commence déjà à s'intéresser à la production. Alors là, on vous montre la plante la plus connue au niveau horticole à l'époque, ça va être la tulipe. C'est celle qu'on a utilisée pour faire l'affiche. Puisque le XVIIe siècle, ça va être, je ne sais pas si vous savez, donc il va y avoir le boom, enfin puis le crack aussi, de la tulipe en Hollande, c'est-à-dire qu'il va y avoir une bulle spéculative. Faut qu'on se parle.
Il en existe.
Voilà.
Une version en couleur.
Donc, au niveau des plantes nouvelles, au niveau des plantes qui intéressent le public, on va vous montrer une autre qui s'appelle donc la frétillière dans sa version couronne impériale. Au XVIIe siècle, donc, et puis même après, contrairement à d'autres disciplines, on va voir encore apparaître des manuscrits. C'est-à-dire qu'on croyait qu'avec l'imprimerie, les manuscrits avaient disparu, mais non, en fait, dans le domaine botanique, ils vont subsister, puisque de grands commanditaires, en l'occurrence là, c'est Gaston d'Orléans qui va demander, donc le frère de Louis XIII, à Daniel Rabel de lui faire de peindre un certain nombre de plantes de son jardin. C'est-à-dire que Gaston a des collections horticoles et il va lui demander ce qui est en fait des portraits de plantes. Ici donc la frétillière, plante qui à l'époque était en grande vogue, ensuite est retombée totalement dans l'oubli et recommence humilement à reparaître. Elle est représentée, donc vous voyez ce qui intéresse là l'illustrateur, ça va être la plante, la fleur au moment de sa floraison. Représenter ça avec un cadre comme un portrait. Alors, l'intérêt donc de Gallica, ça va être pas seulement de consulter ces documents, mais aussi de pouvoir les récupérer. Donc, sur votre gauche, vous avez la petite flèche qui permet en fait le téléchargement. Donc, plusieurs options, on peut récupérer tout le document selon la page, en différents formats, JPEG, PDF, etc. Donc ici, il suffit de... il suffit de faire télécharger et on récupère l'image. Donc vous pouvez récupérer l'image puisque les documents qui sont présentés sur Gallica sont des documents qui ne sont pas sous droit, donc qui sont réutilisables librement, bon, sauf pour utilisation commerciale. Et donc là, on a pu récupérer toute l'image, mais on peut aussi récupérer une partie de l'image, c'est-à-dire qu'en zoomant, on peut faire... On peut récupérer avec l'outil en allant sur le zoom, avec l'outil petite paire de ciseaux, récupérer en fait seulement une partie de l'image. On détourne, ensuite on remplit comme on a fait tout à l'heure, et on peut récupérer seulement un détail, en l'occurrence là un papillon. Donc dans ce document, ça va être plantes et insectes, qui ne sont pas forcément liés.
Il faut appuyer sur la petite flèche.
Oh bon, le principe est le même que celui pour récupérer une image. Donc, on a vu que pour décrire les plantes, il faut en avoir un exemplaire. Alors, quand c'est des plantes locales, c'est facile, hein, ça peut pousser à côté, ou alors on peut avoir un jardin botanique à proximité. Quand il s'agit de plantes exotiques, la difficulté va être que pour leur faire traverser les océans, soit on va récupérer des exemplaires secs, hein, ce qu'on appelle un herbier sec, ce qui va vous faire perdre la couleur, la taille, la forme, enfin bon, ça n'a plus grand-chose à voir avec l'exemplaire naturel. Donc, la meilleure solution, avant qu'on puisse les importer, puisque ça va demander du temps, ça va être d'aller sur place. Et les naturalistes vont, dès la Renaissance, aller dans les pays étrangers pour en récupérer. Là, il s'agit du père Plumier, qui était un père minime, qui va faire plusieurs voyages en Amérique et aux Antilles, et va en ramener quantité de manuscrits. Et son originalité, c'est qu'il est à la fois naturaliste, donc il va faire des textes, et puis il a un bon talent d'illustrateur, de dessinateur, de peintre, donc il va aussi faire les modèles botaniques. Et là, donc, certains de ses manuscrits vont être imprimés. Ici, un ouvrage sur la description des plantes d'Amérique, et vous reconnaissez peut-être un arôme. Autre, pour revenir donc au... Ah oui, on peut aussi récupérer, donc vous avez vu qu'on peut récupérer une image, on peut aussi récupérer le permalien de ce document, ou du document en entier, ou de l'image, ou de la page qu'on est en train de visionner. Et après, il suffit de la mettre dans n'importe quel document, de la mettre en lien sur une image, en faire tout ce que vous voulez. Comme c'est un permalien aussi, c'est un lien permanent qui ne se brisera pas, comme certains liens Internet. Ensuite, donc on vous a montré Daniel Gravel, autre peintre de Vélin, Nicolas Robert. Nicolas Robert va travailler lui aussi pour Gaston d'Orléans, et après il va travailler pour le neveu de Gaston, à savoir Louis XIV, à qui Gaston va léguer ses collections, donc c'est cette collection de Vélin. Collection de Vélin qui va être enrichie, d'ailleurs Nicolas Robert va en produire plusieurs centaines. Et il va donc venir ensuite dans les collections de la Bibliothèque royale et à la Révolution être cédé au muséum, ce qui fait qu'en fait on les connaît maintenant sous le nom de Vélin du muséum. Et on peut les consulter, ils sont visibles également sur Gallica. Ici un recueil de Vélin, toujours du même Nicolas Robert, mais qui appartient au département des estampes. Vous reconnaissez la fraise, mais si vous ne la reconnaissez pas, c'est qu'en fait, elle n'est pas dans le bon sens. Donc, toujours quand on va sur le zoom, on peut retourner l'image dans tous les sens, hein, et la remettre dans le bon sens. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est toujours traité comme un portrait. Il s'agit donc c'est peint sur vélin, donc une bonne qualité de parchemin, ensuite peint à la gouache. Et là, donc, vous reconnaissez bien la fraise. Au XVIIe siècle, la botanique se met en place, puisque le mot déjà apparaît là, au début du XVIIe siècle. Et donc ici, on va vous montrer un ouvrage de Joseph Piton de Tournefort, qui est un botaniste, qui va lui aussi faire un voyage, cette fois-ci en Orient, avec comme lui, il est naturaliste, mais il ne va pas être illustrateur, donc il va se faire accompagner d'un autre peintre de Vélin, Claude Aubrier. Ils vont ramener donc des documents qui seront publiés ensuite, leur récit de voyage, avec les textes de l'un et les planches de l'autre. Il est aussi connu pour son effort pour classer. Donc, vous voyez, on a des milliers de documents, enfin de plantes, et il va falloir classer tout ça, parce que là, on ne peut plus les mettre dans l'ordre alphabétique, ça ne marche plus. Donc, il va publier des amendes botaniques à la fin du XVIIe siècle. Alors, le frontispice, ça va être, en bas de l'image, la représentation du Jardin du Roi. Le Jardin du Roi, qui est fondé en 1635, il s'agit en fait du Jardin des Plantes. Le bâtiment que vous reconnaissez en arrière-plan, il s'agit de ce qui est actuellement la Grande Galerie, et sur la droite, le petit monticule, le labyrinthe du muséum. Il n'y a pas encore la ménagerie et tout le reste. Donc, Tournefort s'intéresse à la plante, à la description de la plante, aux différentes parties de la plante. Au XVIIe siècle, on commence à utiliser le microscope et on va pouvoir décrire vraiment la plante dans le détail. Alors, Tournefort va faire... donc ici, on voit les parties des organes sexuels de la plante, puis après les différentes parties de la fleur, puisque lui, il va faire sa classification sur la fleur. On voit des fleurs simples, fleurs composées. Puis après, il va décrire toutes les plantes avec uniquement les éléments significatifs pour lui, ça va être la fleur et la feuille. Donc on n'a plus la représentation de la plante, on n'a plus la racine, on n'a plus rien. On n'a que ce qu'il considère comme étant l'élément significatif. Au niveau des collections botaniques, donc on a vu par exemple celle du jardin des plantes, et il y avait aussi des collectionneurs privés qui avaient des collections. À partir du XVIe siècle, on a ce qu'on appelle des cabinets de curiosité. Alors, il s'agissait donc de particuliers ou même de princes ou de souverains qui rassemblaient un peu tout, un peu des objets divers et variés, hein, que ce soit des plantes, des animaux, des squelettes, des objets archéologiques, hein, enfin, ça, c'était très, très divers. Ici, Albertus Seba, qui vivait en Hollande, a voulu qu'on garde une trace de son cabinet, qu'il a eu raison, puisqu'il a été dispersé après sa mort. Et donc, ces quatre volumes nous permettent de garder un souvenir de sa collection. Donc, il va être illustré de planches, et elles sont intéressantes, entre autres la première de l'ouvrage, puisque... j'avoue que j'ai été trompé aussi la première fois que j'ai vu cette planche. Il s'agit ici de squelettes de fruits. C'est-à-dire que vous prenez un fruit, vous retirez sa chair et sa peau. Il ne vous reste plus que ses vaisseaux, puis la partie centrale où il y a le pépin. Donc vous reconnaissez sur la partie centrale en haut la forme d'une poire et en dessous la forme d'une pomme. C'est-à-dire qu'à l'époque, on commence vraiment à s'intéresser pas seulement à l'usage médical, pas seulement à l'usage horticole ou agricole, mais à la plante en tant que telle. Donc on va décrire les différentes parties de la plante. Sur une planche suivante, vous allez voir les racines, tous les systèmes racinaires, donc, qui n'étaient pas spécialement étudiés jusqu'ici. Enfin, là, on commence à faire des typologies, à voir que bah, y a des plantes, des racines qui sont verticales, d'autres horizontales, d'autres rhizomes, des bulbes, enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Ici, une coupe d'une plante avec les différentes couches des tissus, comme quand on coupe un arbre. Les différents types de feuilles, donc, avec leur forme, leur nervure. Donc on commence vraiment à avoir des ouvrages de botanique. Comme il n'est plus possible, comme il y a des milliers d'espèces, de décrire toutes les plantes dans un seul ouvrage, qu'on pouvait faire encore jusqu'au XVIe siècle, on va avoir des ouvrages plus spécialisés. Alors on peut se spécialiser par exemple sur une zone géographique. Alors on peut faire sur une région, sur un pays, sur un continent. Donc on voit apparaître une flora danica qui va être une fleur du Danemark, une flora russica, une fleur de Russie, flora japonica, fleur du Japon, etc. Ici, on va vous montrer une flora parisienne 6, qui va être la flore des environs de Paris. Flore qui paraît dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. L'auteur, Bulliard, va faire à la fois le texte et les planches. L'intérêt de l'ouvrage, c'est déjà ça permet de découvrir les fleurs de notre région, c'est aussi que, comme on voit dans la page de titre, il va les faire ranger selon la méthode sexuelle de Monsieur Linné. Alors Linné, c'est un botaniste danois au 18e siècle, qui va faire un système de classification selon les organes sexuels, qui sera un peu oublié, mais on va garder son système pour nommer les êtres vivants, donc avec le genre et l'espèce, avec son nom latin. Toujours au XVIIIe siècle, on peut s'intéresser aux plantes au niveau pratique ou à un type de plante en particulier. En l'occurrence, les arbres. Alors les arbres, donc on va avoir des ouvrages en dendrologie, des arbres, que ce soit du point de vue botanique ou pratique. Ici, Duhamel du Monceau, qui va être un membre de l'Académie des sciences et puis un inspecteur général de la marine. Donc pourquoi est-ce que la marine s'intéresse aux arbres? C'est qu'il fallait des arbres et puis des gros pour les même des centaines pour faire donc le bois de marine. Et Duhamel du Monceau va faire paraître des ouvrages sur les plantes, pas seulement les ouvrages les bois de marine, donc les arbres et arbustes que l'on cultive en France. Une première édition paraît au moitié du XVIIIe siècle, illustrée avec des planches qui, pour certaines, sont des planches sur bois qui remontent au XVIe, donc une illustration ancienne. Ici, la deuxième édition est intéressante puisque on va faire appel à des artistes contemporains et surtout là aux plus célèbres qu'on connaisse, c'est peut-être même ceux qu'on connaisse en France au niveau des illustrateurs botaniques, à savoir Pierre-Joseph Redouté. Donc Redouté va faire des planches ici sur mes tables de la gravure au pointillé et une représentation du et comme vous voyez, on n'a pas la représentation de tout l'arbre, on va avoir simplement la représentation d'un rameau. Et par contre, on voit bien les détails botaniques en bas, c'est-à-dire qu'on va voir la fleur, on va voir le fruit, on va voir la graine, donc tout ce qu'il faut pour identifier une plante. Et on voit en bas à gauche la mention Redouté Pinxit, donc Redouté Lapin, puis un autre la gravée, bien sûr. Alors. Encore plus spécialisé, donc là on voit l'étude des arbres, on peut étudier aussi les arbres uniquement, les arbres fruitiers, c'est ce qu'on appelle la pomologie, donc le pomum, le fruit. Au XVIIIe siècle, le prince évêque de Würzburg, il s'agit d'un évêché en Allemagne, va faire paraître un ouvrage sur ses collections fruitières. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, vous vous souvenez peut-être, Louis XIV avait créé à la fois le parc et le château de Versailles, mais aussi un potager, parce qu'il aimait bien avoir des fruits et des légumes, même hors saison, et c'était un grand amateur, et c'est aussi ça qui a fait naître un goût pour les fruits et légumes au niveau des grandes couches de la société. Donc notre prince évêque, là, va demander à ce qu'on fasse un inventaire de ses collections. Ici, on voit une Wünging. Alors, vous voyez, c'est écrit en français et en allemand. En allemand, puisque c'est un allemand, puis en français, puisque c'est la grande culturelle de l'époque. Ici, une planche de guigne, la cerise guigne. Mais après, on ne vous les montre pas, mais il y en a plein d'autres. Il y a la griotte, alors il y a les cerises hâtives, les cerises tardives. Il y en a qui sont assez blanches. Enfin, on ne vous les fait pas toutes, mais il y a même des nèfles. Enfin, il y a plein d'espèces diverses et variées. Avec à chaque fois, donc vous voyez, on voit bien le fruit. Comme on ne va pas rester uniquement au niveau européen, enfin français ou européen, on peut aller voir un peu plus vers l'est, un grand pays qui a une grande tradition botanique ou horticole, puisqu'il s'agit de la Chine. Donc, au XIXe siècle, un auteur qui s'appelle Yuga, oui, enfin ça n'a rien à voir avec la plante, hein, va faire paraître un certain nombre de recueils sur des sujets chinois, ici sur les fruits et légumes, mais il va en faire d'autres sur les porcelaines, ça va être sur le verre à soie, sur l'opium, enfin, sujets divers et variés. Ici, fruits et légumes, alors on peut voir un fruit assez reconnaissable, qui en plus est un fruit chinois, puisqu'il s'agit du litchi. Alors, contrairement à nos ouvrages qui sont imprimés sur du papier de chiffon, là, ça va être sur du papier de moelle de jonc, et ça va être peint à l'encre de chine de couleur. Donc, chacun a sa technique. Et l'originalité de cet ensemble de recueils, c'est que ce sont des recueils pour le marché européen. C'est-à-dire que ça va être avec les différentes compagnies des Indes, ça va arriver jusqu'en Occident. Donc, on a pu influencer donc d'autres continents, mais l'inverse c'est vrai aussi, comme on voit ici. Là, ensuite, on va revenir à l'illustrateur qu'on vous montrait précédemment, à savoir Redouté. Redouté, qui est très connu pour son ouvrage sur les roses, on a fait paraître aussi un certain nombre d'autres, enfin illustré beaucoup d'autres ouvrages. Au début du XIXe siècle, il va profiter d'une commanditaire particulièrement intéressée, qui va être l'impératrice Joséphine, qui va lui demander un certain nombre d'ouvrages. Enfin, Redouté va être soutenu par le couple impérial, ce qui va permettre de faire paraître plusieurs ouvrages. Ici, il va faire 8 volumes sur les liliacées. Alors, la majorité des plantes qu'il va représenter vont être tirées des collections de la Malmaison, puisque à la Malmaison, il y avait un vrai jardin botanique, un dessert, une ménagerie, tout ce qu'on veut. Et grâce à ce soutien, en fait, il va faire paraître cet ouvrage à chaque fois, ça va être mis en couleur à la main. Mais là, c'était un ouvrage de prix, un ouvrage de tel prix qui va être offert par Napoléon aux gens qu'il voulait honorer. Ici, on reconnaît, on a la légende en dessous, une Amaryllis. au XIXe siècle, ça va être le grand moment de l'horticulture. Déjà, on a vu les prémices au siècle précédent, mais là, ça va être une généralisation. Alors, ça va être aussi tout un marché qui se met en place, des producteurs, dont certains, dont vous connaissez sûrement les noms, puisque on va vous montrer ici, l'album Villemorin. Il s'agit d'une production de la famille Villemorin-Andrieux, qui, depuis deux siècles et demi, produit... Alors au début ils étaient grainetiers, puis après ils ont fait dans le fruit, les légumes et tout ce qu'on veut. Donc dans la deuxième moitié du 19e siècle, chaque année, ils vont faire paraître une grande affiche de plantes qui produisent, une grande affiche lithographiée. Donc sur les planches précédentes, il y a des fleurs. Ici, on vous montre des planches de légumes. Alors comme vous voyez, des oignons, alors de différentes formes, différentes couleurs, tout ce qu'on veut. Et tout ça, donc, ça leur servait de catalogue horticole. C'est-à-dire que les méthodes de reproduction industrielle du XIXe siècle vont permettre de diffuser ces catalogues. Et bon, maintenant c'est sur Internet, mais à l'époque c'était sous cette forme-ci. Maintenant, un peu moins sérieux, donc là on a vu un peu les grands auteurs ou le commerce. La botanique va aussi intéresser puis inspirer des auteurs plus littéraires. Ici, un illustrateur de la fin du 19e siècle, Walter Crane, qui est connu pour ses ouvrages, alors ça va être surtout des ouvrages pour d'illustration pour les enfants, ou des contes, ou des choses comme ça. C'est un grand représentant du mouvement Arts and Crafts, qui est l'équivalent anglais de l'Art Nouveau. Et non seulement il est illustrateur, mais il écrivait aussi. Donc là, il va faire un ouvrage, Floraskiste, la fête de fleurs, enfin, le banquet de fleurs, selon la façon dont on traduit. Et il va faire donc à chaque fois une page, pour chaque page, parler d'une plante, avec un petit poème de sa plume, et une illustration aussi, dont il est responsable. Donc à chaque fois il va montrer la plante, mais en la mettant en scène avec des petits personnages qui sont habillés avec cette plante, et puis en mettant en scène de façon un peu originale, un peu comique. Plus loin on a des... Fais l'angle de page. Donc si vous voyez, on voit... Donc à chaque fois c'est un peu un motif allégorique, mais voilà, on voit l'arôme et la frétillière qu'on vous montrait tout à l'heure, mais représentés d'une façon un peu plus originale. Ce type de représentation, on peut aussi en retrouver un exemple à travers un auteur de la première moitié, enfin moitié du 19e siècle, qui s'appelle Granville. Alors Granville, c'est un caricaturiste. Donc il va faire beaucoup de portraits, publier dans des revues ou illustrer des ouvrages. Donc ça va être surtout des portraits charges, hein, contre certaines classes sociales ou certains personnages. Et il va utiliser, un peu dans le même modèle que Crane, soit des animaux, soit des plantes. Alors, il a fait un ouvrage sur les animaux, il en a fait un sur les légumes que je vous conseille, qui est aussi numérisé. Ça s'appelle je crois que c'est l'Empire des légumes, les mémoires de Cucurbitus Ier. Là, ça va être plutôt des fleurs, donc les fleurs animées. Et Granville va reprendre un peu le même principe qu'on a vu tout à l'heure, à savoir représenter une plante par un personnage humain. Donc là, une femme qui représente l'aubépine et sa robe portant donc la fleur et le fruit de la plante. Et là, elle est menacée par un sécateur et un taillé en dessous, voilà, qui sont en train de... qui lui en veulent, hein. C'est la dure vie d'être là. Au niveau horticole, on a vu que donc la sélection pouvait se faire au niveau de la fleur, hein, donc de sélectionner les plus belles fleurs, au niveau des fruits qui sont les plus gros, les meilleurs, tout ça. Mais on peut aussi sélectionner les plantes, pour leur aspect ornemental, on peut les sélectionner pour leurs feuilles. Et au XIXe siècle, il y a des ouvrages qui vont paraître sur les plantes à feuillage ornemental, à feuillage coloré. L'intérêt du feuillage coloré, c'est que contrairement aux aux fleurs, aux fruits qui durent assez peu. Donc les feuilles durent beaucoup plus longtemps dans l'année, même si elles peuvent tomber. Et puis ça permet de faire des décorations. Donc ici l'ouvrage va être uniquement sur les feuillages colorés. Pour en revenir à la pomologie, donc je vous avais montré tout à l'heure qu'on pouvait étudier un certain type de plantes, donc les arbres, les arbretiers, puis on peut aussi au 19e siècle avoir des ouvrages encore plus spécialisés. Donc là, on a un ouvrage qui va être consacré uniquement aux agrumes. Alors, dès le 17e siècle, il y avait des ouvrages qui commencent à apparaître pour ces plantes, qui sont des plantes exotiques, qui sont des plantes de prix. Hein. Souvenez-vous, l'orangerie à Versailles. Et au 19e siècle, un ouvrage, Risseau, qui est un naturaliste niçois, va faire paraître un ouvrage sur les orangers et agrumes de manière plus générale. Alors, c'est intéressant puisque, effectivement, Nice, c'est par son climat, une région géographique qui permet de faire pousser ce type de plante. Donc là, on va vous montrer une orange, c'est maltaise, je crois. Encore une fois, au 19e siècle, les procédés de reproduction vont permettre de diffuser plus largement et de faire connaître toutes ces espèces. Les ouvrages en couleur jusqu'au 18e étaient des ouvrages de prix, c'est-à-dire qu'il faut les mettre à la main, en couleur à la main, à partir de la litho, on va pouvoir imprimer en beaucoup plus grande quantité. Donc vous voyez, encore une fois, on va représenter des éléments significatifs de la plante, et pas tout l'arbre. Les ouvrages où on a la représentation de l'ensemble de l'arbre sont beaucoup plus rares. Donc, vous avez vu qu'on peut étudier les plantes du point de vue scientifique, on peut les étudier aussi du point de vue littéraire, mais également on peut les utiliser pour un usage ludique. Donc comme on pense un peu à tout public, n'oublions pas les enfants, et nous allons vous montrer ici un ouvrage qui s'appelle « Pour amuser les enfants avec les plantes ». C'est-à-dire qu'avec à peu près rien du tout, si je puis dire, avec ce que vous pouvez trouver sous la main ou même dans votre panier de provisions, on peut amuser les enfants. Un ouvrage qui date qui a un siècle. Voyez, on peut faire des bonhommes, des bêtes, des bonhommes, avec absolument rien du tout, avec un gland. Avec un gland, on peut faire un pompon. Alors vous découpez le gland, ça vous fait le petit berceau, vous sculptez la partie graine en haut, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, ça vous fait le petit poupon, et en dessous, même avec des noyaux et des queues de cerises, on peut s'amuser, vous voyez, hein. Pour les longues soirées d'hiver, hein, ne jetez plus vos épluchures, mais réutilisez-les. Vous pouvez écrire vos noms sur des fruits, ça vous savez, il suffit de mettre un cache sur le fruit, et puis les parties qui ne sont pas exposées à la lumière feront une figure. Autre type de document, on vous a montré des manuscrits, on vous a montré des ouvrages, on a aussi des milliers de revues, diverses et variées, qu'elles soient spécialisées ou pas. En l'occurrence, là, le Journal des Roses, dans la deuxième moitié du 19e siècle, donc on a des horticulteurs qui vont se spécialiser, enfin, le 19e, qui vont se spécialiser dans certaines productions horticoles et même floricoles, à savoir la rose. Hein, déjà au début du 19e, l'impératrice Joséphine avait lancé la mode, Redouté avait fait paraître un ouvrage très connu sur la rose, et on en crée des quantités d'obtentions différentes. Donc pour faire connaître tout ça, il va falloir publier, et là donc une famille d'horticulteurs, des cochets, vont faire paraître cette revue qui leur sert à la fois, qui leur sert aussi pour présenter leur production. Donc on en a un peu toutes les couleurs. Et quand vous êtes sur une revue, vous voyez, on peut faire défiler le volume précédent au suivant. Il y a aussi un autre outil qui permet d'aller sur tous les numéros, ce qui permet de balayer rapidement quand vous avez fait la date d'un journal, par exemple. Il n'y a pas besoin de les faire tous, surtout quand c'est un journal quotidien, on peut aller directement à l'année, au mois, au jour. Ce qui facilite beaucoup la vie. Ensuite, autre exemple, on va vous montrer la revue Horticole. Alors, la revue Horticole, c'est une des premières revues Horticole qui paraissent, une des plus anciennes, qui a duré un siècle et demi, de 1820 à 1970 environ. Et l'intérêt là, c'est que ça nous permet d'aller sur un autre site. C'est-à-dire que donc, la BNF numérise, mais on a aussi un certain nombre de bibliothèques partenaires qui vont aussi numériser. En l'occurrence, la Société nationale d'horticulture de France, qui est l'éditrice toujours actuelle, enfin, la société existe toujours donc, de la revue Horticole, parce que la société a presque 2 siècles. Donc elle numérise par elle-même, donc à la fois ses publications puis les collections de sa bibliothèque, et donc va le mettre sur sa propre bibliothèque numérique, qui s'appelle Hortalia. Donc là, en fait, on a basculé sur cette bibliothèque. C'est-à-dire que dans Gallica, on a fait la recherche, c'est comme si on avait recherché les Bellerin Museum, on aurait trouvé des résultats, et puis, mais c'est en cliquant dessus, on aurait atterri sur la bibliothèque numérique du Museum. Là, c'est celle d'Hortalia. Et là, c'était pour vous montrer un exemple de plantes décoratives, des obtentions, puisqu'il s'agit d'une rhubarbe hybride qui ressemble assez peu au rhubarbe classique qu'on connaît. Alors, on vous a tenu en haleine pendant toute cette séance, mais maintenant, on va vous dévoiler la plante qu'on vous a montrée en tout début. Donc, Gallica est utilisée par un certain nombre d'autres sites et d'autres programmes. Ici, c'est un programme qui s'appelle Biblicima, qui est une bibliothèque virtuelle pour les époques médiévales et renaissantes. Et elle va utiliser donc Gallica, mais aussi d'autres bases de données, entre autres une autre qui s'appelle Mandragore, qui est une base iconographique du département des manuscrits. Et l'avantage, c'est qu'elle permet de lier les deux. C'est-à-dire que si je cherche à la côte et au folio donc, le manuscrit qu'on vous a montré initialement, vous allez voir qu'on va atterrir sur cette même plante quand on prend sa charge, mais tout en haut. Mais en haut, vous avez la notice et, entre autres, l'identification de la plante. Donc, il s'agit d'une serpentaire. Bon, ça met un peu de temps à charger, mais de toute façon, ça vous montrerait le même résultat que tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc des mots-clés qui ont été rentrés et on peut ensuite naviguer dessus, basculer. Et comme vous voyez, il existe un certain nombre d'autres. D'autres manuscrits qui ont été indexés de la même façon. C'est-à-dire que si vous faites une bête recherche par Gallica et que vous trouvez Serpentaire, vous ne le trouverez jamais par Gallica, mais grâce à d'autres outils, vous pourrez retrouver très facilement de l'illustration. Vous voyez, différentes planches, plus ou moins réalistes, de cette plante.
Écoutez, merci de votre attention. Je suis désolée que tout n'ait pas fonctionné aussi bien qu'on l'espérait. Donc, certaines branches n'ont pas pu vous montrer. Mais vous pourrez retrouver l'ensemble de ces documents et leurs références sur le site de Pépin Productions, à qui nous transmettrons tout ça. J'en profite également pour vous informer que la Bibliothèque nationale de France propose des ateliers gratuits tous les jeudis après-midi à l'utilisation de Gallica, parce que c'est vrai que là on n'est pas rentré vraiment dans le détail des recherches, hein, privilégier les documents. Également tous les mois, des rencontres Gallica. Donc là ici c'est un rendez-vous, mais les rencontres Gallica se déroulent à la Bibliothèque nationale de France sur le site François Mitterrand. La prochaine a lieu demain. Elle portera sur le roman de Renard. Hein. Donc, demain à 17h30. Voilà, je vous remercie.
Alors, merci beaucoup à vous, responsables donc, des collections végétales de la BNF Gallica, pour cette plongée, ce voyage dans le temps et dans l'espace avec les plantes vivaces. On espère que ça aura vraiment attisé votre curiosité, que ça vous aura inspiré pour peut-être d'autres projets, des projets personnels, créatifs ou simplement documentaires. Donc merci, un très grand merci au cinéma Le Club de l'Étoile. pour son accueil. Donc, dans le cadre de ces rendez-vous citoyens, il y a d'autres rendez-vous, donc on vous invite à être attentif à ces rendez-vous qui proposent des problématiques donc, citoyennes pour notre société. Et pour nous permettre donc de financer cet après-midi, il y a une boîte à dons qui sera mise à disposition et vous pouvez apporter une participation en libre conscience voilà, pour nous aider à financer cet après-midi. Un billet de cinéma coûte ici 5 euros pour information. Alors maintenant, la suite du programme. Donc on va se retrouver dans 25 minutes après l'entracte pour plonger dans l'aventure des plantes de Jean-Marie Pelt et Jean-Pierre Cuny. Donc cette série à succès des années 80 qui avait obtenu un 7 d'or à l'époque peut paraître du point de vue de l'image un petit peu datée, mais c'est vraiment une plongée toujours aussi inédite au plus près du monde végétal, vraiment très originale et voilà, un regard très, très particulier. Et Pépin Productions, dont Jean-Marie Pelt avait fut le parrain, a retenu pour vous deux épisodes. Vous apprendrez ainsi comment les plantes ont posé le pied sur la terre ferme et aussi comment les oiseaux ont d'autres relations avec les fleurs que celle de manger leurs graines. Voilà, donc Jean-Marie Pelt n'a cessé depuis plus de 40 ans de vulgariser le monde des plantes, ses petites histoires, ses secrets, de montrer la nécessaire et bienfaitrice interdépendance entre l'homme et le milieu naturel. Et il fut vraiment le pionnier de l'écologie urbaine en France. Et pour nous, ça représentait, bah, par rapport au projet et à la vocation de Pépin, c'était un beau début pour nous. Pour les curieux, vous pourrez donc découvrir des ouvrages qui sont disponibles en haut à la buvette, et donc qui seront ventes ici, ainsi qu'un ouvrage sur les oiseaux communs en Île-de-France, puisque c'était aussi le thème, notre fil rouge de cette année pour le Festival Vivace. Voilà, et maintenant, eh bien, rendez-vous tous à la buvette coup de pouce pour échanger, partager et déguster. Oui, il faut monter. Voilà, il faut monter, vous allez trouver. Paf, j'ai fait un enregistrement, on verra. Ah, ça a dû être le plus. Non, mais il y en a.